Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 5 janvier 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Nouveaux acteurs dans les négociations de Vienne, signe de progrès dans la levée des sanctions. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, l'invité sud-coréen participe au pourparlers de Vienne. Les auteurs de l'assassinat du général Soleimani ne seront pas en sécurité, selon les déclarations du haut commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le général Rouhani. Et puis en Irak, la base américaine Camp Victory touchée par des roquettes. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le 8e cycle de pourparlers entre l'Iran et les autres parties de l'accord de 2015 est en cours à Vienne. Les États-Unis affirment que les négociations ont montré des progrès modestes. Le département d'État américain a exprimé l'espoir que les parties au pourparlers puissent s'appuyer sur les progrès réalisés cette semaine. Cependant, le premier ministre britannique a averti que le temps de sauver le PGAC est compté. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue israélien Boris Johnson, a déclaré que Londres souhaitait le rétablissement complet de l'accord, prétendant que l'Iran devrait s'engager de bonne foi. De son côté, Téhéran rejette ce qu'il appelle les délais fabriqués par l'Occident, disant qu'il appartient à l'autre partie d'accélérer les progrès des pourparlers. L'invité sud-coréen aux négociations de Vienne, une délégation sud-coréenne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, est arrivée à Vienne pour déterminer la tâche de débloquer les avoirs iraniens gelés en Corée du Sud. Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Chong-kun, devrait rencontrer aujourd'hui Henrik Mora, coordinateur de la commission mixte du GCPOA. Des rencontres avec d'autres membres de l'accord nucléaire et des États-Unis font partie de ces autres plans. Hier, des diplomates sud-coréens étaient occupés à organiser une rencontre entre Choi Chong-kun et la commission mixte et la délégation américaine. Depuis des heures, les journalistes attendent la couverture médiatique de l'événement devant l'hôtel Cobourg, où se tiennent les pourparlers sur les sanctions, et l'hôtel Marriott, où se tiennent les réunions des 4+1 et les États-Unis. Selon les observateurs, cette décision qui a fait naître l'espoir de dégeler les biens de l'Iran en Corée du Sud est considérée comme un signe positif du processus des négociations. Il est important de noter que la délégation sud-coréenne ne s'est pas rendue à Vienne à l'invitation de l'équipe de négociation iranienne. Selon un correspondant de l'IRNA, ainsi la délégation coréenne a très probablement été invitée par le parti d'en face. Un haut commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que les acteurs de l'assassinat du lieutenant général Qassem Soleimani ne seraient pas en sécurité. le commandant de la force Quds du CGRI, le général de brigade Ismail Grahani, a affirmé que Téhéran n'oublierait jamais le martyr de Soleimani et de ses camarades. Le général Rouhani a noté que l'Iran connaît ceux qui sont derrière le meurtre du plus haut commandant iranien, y compris l'ancien président américain Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo. Et ripostera à sa manière. Il a ajouté que Téhéran exigeait le retrait des troupes américaines de la région, mais a réalisé plus que cela lorsque l'Irak a effectivement expulsé les forces américaines. Le commandant de la force Quds a souligné la montée des sentiments anti-Washington en Irak et les appels croissants à l'expulsion des 2000 forces américaines se trouvant toujours sur le sol irakien. L'Iran et la France discutent du renforcement de la coopération sur les questions judiciaires. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur de France à Téhéran, Philippe Thiebaud, le secrétaire du Conseil des droits de l'homme de la justice iranienne, Qasem Gharibabadi, a souligné la nécessité d'une coopération juridique entre les deux pays. Se référant à l'expérience des dialogues d'experts sur les questions juridiques et judiciaires avec certains pays européens, Qasem Gharibabadi a déclaré que l'Iran est prêt à échanger des vues avec la France dans ce domaine. Qasem Gharibabadi a ajouté que les dialogues d'experts judiciaires pourraient également aider les pays à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle. Il a également critiqué les approches et les doubles standards de certains pays vis-à-vis de la question des droits de l'homme, affirmant que la coopération et le dialogue sont des outils efficaces pour la promotion des droits de l'homme et qu'ils ne sont pas liés à la politique ou aux approches duales. Expliquant les politiques des droits humains de Téhéran, Gharibabadi a déclaré que les lois et règlements iraniens stipulent la promotion et le respect des droits humains. Il a également ajouté que l'Iran est membre de plusieurs conventions et traités relatifs aux droits de l'homme auxquels il fournit des rapports périodiques sur leur mise en œuvre. Philippe Thiebaud a pour sa part exposé le point de vue de son pays sur les droits de l'homme et a salué la proposition de l'Iran d'échanger des dialogues juridiques et judiciaires. Le président irakien salue le héros national iranien, le feu lieutenant général Rossem Soleimani, pour ses précieuses contributions au déracinement des terroristes de Daesh dans la région. Bahram Saleh a déclaré que le général Soleimani a défendu le peuple irakien lorsqu'il avait été brutalement attaqué par les terroristes daeshistes. Plus tôt dans la journée, le président Saleh et plusieurs hauts responsables irakiens actuels et anciens ont assisté à un événement à Bagdad en hommage au général Soleimani et du commandant irakien Abu Mahdi al-Mohandis. Le ministre irakien de la Défense, Juma Inad, a également pris la parole, déclarant que les deux personnalités avaient le rôle le plus central dans la lutte contre Daesh. Les deux commandants ont perdu la vie dans une frappe de drone américaine près de Bagdad il y a 2 ans. Des informations en provenance d'Irak indiquent que 4 roquettes ont touché la base américaine Camp Victory près de l'aéroport international de Bagdad. L'attaque survient après 2 jours consécutifs de frappes contre les bases américaines dans le pays. Quelques heures plus tôt, les forces dirigées par les États-Unis avaient affirmé avoir abattu 2 drones armés visant la base aérienne d'Ain al-Assad dans la province irakienne d'Al-Anbar. Une attaque de drones similaire a été lancée lundi sur le Victory Base Complex. Pendant ce temps, la coalition militaire dirigée par les États-Unis a déclaré avoir mené des frappes aériennes dans la province syrienne de Deir ez-Zor contre ce qu'elle appelle une menace imminente. Les attaques surviennent dans un contexte de sentiments anti-américains croissants face à l'aventurisme militaire et politique de Washington dans la région. L'actrice du film Harry Potter exprime son soutien à la Palestine. La star de Harry Potter, Emma Watson, a publié une photo pro-palestinienne sur son compte Instagram officiel qui a été critiquée par les autorités israéliennes, mais a été soutenue par les utilisateurs des réseaux sociaux. Le compte Instagram officiel d'Emma Watson, une actrice britannique avec environ 65 millions de followers, a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens, qui a été soutenue par les utilisateurs des réseaux sociaux dans le cyberespace et a mis en colère les responsables illégaux du gouvernement israélien. La star de cinéma, mieux connue pour son rôle d'Hermione Granger dans les films Harry Potter, a publié lundi une photo du rassemblement palestinien avec les mots « La solidarité est un verbe ». Enfin, aux États-Unis, des extrémistes continueraient de se métastaser et de recruter des membres malgré la répression qui a suivi l'attaque de l'an dernier contre le Capitole. Une recherche menée par l'Atlantic Council indique que certains groupes extrémistes se sont réorganisés en mettant l'accent sur la politique locale. Il met en garde contre la montée des influenceurs d'extrême droite sur les réseaux sociaux et le danger de la radicalisation qui en découle. Les groupes d'extrême droite sont à l'origine de la plupart des attaques terroristes à l'intérieur des États-Unis. L'attaque de l'année dernière contre le bâtiment du Capitole a placé ces groupes sous un examen plus intensif. La police américaine a procédé à plus de 700 arrestations dans le cadre de l'attaque de janvier 2021 contre le bâtiment du Congrès. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous, merci. Nouveaux acteurs dans les négociations de Vienne, signe de progrès dans la levée des sanctions. Les pourparlers de Vienne sont devenus plus chaudes ces jours-ci, avec des réunions longues et fréquentes entre les délégations de négociations, et ceci avec l'entrée de certains nouveaux acteurs dans les négociations, indiquant la possibilité de nouveaux développements pour relancer le JCPOA et lever les sanctions. Les pourparlers se sont poursuivis mardi avec des rencontres bilatérales et multilatérales entre les délégations participant aux pourparlers. Ali Borelikhani, le négociateur en chef de l'Iran, est arrivé à l'hôtel Cobourg vers 15h et a eu des entretiens séparés avec Henrik Mora, secrétaire général adjoint du service d'action étrangère de l'Union européenne, ainsi que de hauts négociateurs de Chine et de Russie. Il a également rencontré des négociateurs de trois pays européens. Les pourparlers ont duré environ 5 heures et les délégations ont quitté l'hôtel Cobourg sans divulguer les détails des pourparlers aux journalistes. Cependant, Mikhail Ulyanov a tweeté qu'il avait rencontré le principal négociateur iranien, notant que les deux parties avaient discuté de questions non résolues qui devraient être résolues lors des pourparlers de Vienne. Ce haut diplomate russe a également mentionné dans un autre tweet qu'il avait rencontré Henrik Mora, le coordinateur de la commission conjointe, et a écrit que les deux parties avaient échangé des vues sur le dernier statut des pourparlers de Vienne et la possibilité de poursuivre les conversations. La visite du vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères à Vienne met un développement important qui a été largement rapporté hier dans la couverture médiatique des pourparlers de Vienne, en particulier parmi les journalistes à l'extérieur de l'hôtel Cobourg, a été la nouvelle de la visite du vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères à Vienne. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Choi Chong-kan se rendra dans la capitale autrichienne du 4 au 9 janvier pour rencontrer les chefs des équipes de négociation travaillant à la relance de l'accord de 2015. Le communiqué ajoute que le gouvernement sud-coréen est en contact avec des pays clés pour résoudre les problèmes non résolus avec l'Iran, ainsi qu'une coordination et des relations étroites avec les États-Unis, l'Union européenne et la Troïka, à savoir France, Allemagne et Royaume-Uni. Le communiqué ajoute que le gouvernement sud-coréen poursuivra son soutien diplomatique pour relancer les accords de 2015 et renforcer les relations avec l'Iran. Environ 10 000 milliards de wons, soit 9,2 milliards de dollars de fonds iraniens, auraient été gelés dans des banques sud-coréennes en vertu des sanctions américaines concernant les programmes nucléaires de Téhéran. Environ deux mois avant le début d'un nouveau cycle de pourparlers à Vienne, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que Choi Jong-kan et Robert Malley avaient discuté des efforts pour reprendre les pourparlers de Vienne lors d'une conversation téléphonique. Sans donner de détails sur les pourparlers, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les deux parties ont souligné la volonté de Séoul de soutenir les efforts diplomatiques concernant le dernier statut des pourparlers. Bien que la Corée du Sud ne soit pas partie au JCPOA, la visite du vice-ministre des Affaires étrangères à Vienne pour régler la question des avoirs gelés de l'Iran est considéré par les observateurs comme un signe positif de progrès dans le processus de négociation sur la levée des sanctions. Hier également, quelques heures avant l'arrivée de M. Borrelli à l'hôtel Cobourg, on a appris que des diplomates saoudiens étaient entrés dans l'hôtel Marriott, où la délégation américaine rencontre habituellement le groupe 4+1. Des informations et des rumeurs non confirmées indiquent que la partie saoudienne a rencontré le représentant spécial américain pour l'Iran, Robert Malley. Des représentants de trois pays européens auraient également assisté à la réunion. Aucune source officielle n'a encore confirmé ou démenti les rumeurs concernant les réunions, mais des journalistes affiliés au gouvernement saoudien stationnés devant l'hôtel Cobourg ont confirmé la présence d'une délégation saoudienne à l'hôtel Marriott dans le cadre des pourparlers en cours. Cela pourrait être le signe d'une évolution positive des pourparlers, compte tenu des récentes remarques du ministre saoudien des Affaires étrangères en faveur des pourparlers de Vienne, ainsi que la visite du vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud. Dans le même temps, de nouveaux développements dans le processus de négociation de Vienne, la Grande-Bretagne, sous la pression du régime sioniste, a réitéré des positions non constructives concernant les négociations. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre du régime sioniste, Naftali Bennett, mardi, a répété l'excuse de la date limite, affirmant « Le temps pour l'Iran de revenir à l'accord nucléaire de 2015 touche à sa fin ». Le huitième cycle des pourparlers de Vienne a débuté lundi dernier et semble maintenant être entré dans une phase critique. Les parties occidentales continuent de jouer le rôle de blâmer l'Iran et insistent pour fixer de fausses échéances qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la reprise de l'accord de 2015. Mais dans les coulisses, il semble que le développement avance et sur la voie du progrès.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce 1er janvier 2022. La résistance yéménite multiplie ses opérations hybride et synchrone contre l'Arabie saoudite, ses mercenaires. Le porte-parole des forces yéménites a annoncé que les troupes yéménites et les combattants d'Asarallah avaient réussi à libérer ces derniers jours plus de 1200 km² de terre dans la province d'Al-Jawf, limitrophe de l'Arabie saoudite. Le général Yahya Sari a précisé que les forces yéménites avaient attaqué les mercenaires à la solde du régime de Riyad sur plusieurs fronts. Le général Sari a par ailleurs évoqué l'intensification des frappes saoudiennes contre le Yémen, précisant que ces derniers jours, les avions de combat saoudiens avaient mené plus de 500 frappes contre les différentes provinces yéménites. Dans ce contexte, un membre du bureau politique du gouvernement de salut national au Yémen a révélé que les avions de combat américains, mais aussi israéliens, auraient été impliqués en effet dans le bombardement du Yémen. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les toutes dernières évolutions sur le terrain au Yémen. Les avancées considérables des combattants d'Ansarallah et bien entendu cette opération définitive et stratégique dans la province de Ma'arib qui entre dans la dernière ligne droite. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Les combattants yéménites sont arrivés à s'emparer de 5 camps dans la zone frontalière d'Al Yatma, dans le sud-est de l'Arabie saoudite et plus précisément dans la région de Najran. Ils ont également regagné certains districts à Chabwa et certains d'autres qui se situent dans le sud et l'est de Ma'arib, couvrant une superficie totale de plus de 3200 km. D'autre part, l'unité de missiles de l'armée d'Ansarallah a lancé une attaque aux missiles contre les fiefs des mercenaires affiliés aux Émirats arabes unis. Selon le correspondant de la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, 20 mercenaires à la solde des Émirats arabes unis ont été tués ou blessés dans cette attaque balistique des forces yéménites. Cette frappe balistique est intervenue quelques heures après que les combattants yéménites ont repris aux mercenaires pour Riyad le camp de Hamouma dans le district de Marka du gouvernorat de Chabwa. En riposte aux attaques yéménites, les chasseurs de la coalition saoudienne ont bombardé les districts d'Ousailan et de Boujan à plusieurs reprises pour sauver les mercenaires émiratis. Il est possible que ces attaques aient été menées avec des drones kamikazes. Il s'agit de la deuxième attaque balistique d'Ansarallah en 2 jours, depuis que des mercenaires arabes unis sont arrivés dans le gouvernorat de Chabwa, la première ayant visé l'aéroport d'attaque, causant de graves dégâts. Et pendant ce temps, un s'avance aussi bien sur le sol que dans le ciel. Le 30 décembre, un missile antiaérien 3M9 de fabrication soviétique tiré par Ansarallah a été retrouvé dans le district d'Al-Wadi, près de la ville yéménite de Ma'arib, a-t-on appris du site américain South Front. Les combattants de la résistance yéménite ont renforcé leur capacité de défense aérienne au cours des dernières années. En 2021, ils ont abattu plus d'une douzaine de drones au-dessus du Yémen, la plupart appartenant à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Habib Tava, analyste politique, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour votre invitation. Merci.
En ce 1er janvier 2022, alors nous allons justement nous pencher les évolutions au Yémen. Au Yémen, alors, la bataille de Ma'arib, de la province stratégique de Ma'arib, Maître Chamy, comme vous le savez, entre dans la dernière étape. Parallèlement, Ansarallah et les forces yéménites ont lancé une opération éclair, l'opération L'Aube du désert, dans la province d'Al-Jawf, sans oublier, bien entendu, alors, le tir des missiles balistiques d'Ansarallah et des forces yéménites contre, dans la profondeur en effet, de l'Arabie saoudite. Pour commencer, Maître Chami, quel premier regard portez-vous sur les récentes opérations hybrides mais aussi synchrones des forces yéménites, tout en portant bien sûr un regard rétrospectif sur les opérations stratégiques d'Ansarallah en 2021?
Vous savez, j'ai envie de faire d'abord un premier commentaire. C'est, j'ai envie de dire pour l'Arabie saoudite, tout ça pour ça. C'est-à-dire une guerre qui dure depuis 2005, on est à la 7e année, pour avoir quoi? Pour avoir que des échecs militaires, une honte sur le plan moral et des crimes qui sont devenus innommables et qui sont devenus insupportables pour quiconque, que l'on soit pro-yéménite ou pas, qu'on aime les yéménites ou pas, c'est juste une honte pour l'ensemble de l'humanité. Je tiens à faire une deuxième remarque, c'est le travail remarquable qui est fait par vos confrères d'Almanar, qui ont fait un travail de documentation et d'archivage exceptionnel sur le déroulement de cette guerre depuis 2015 jusqu'à maintenant, avec le nombre de massacres, le nombre de morts, le nombre de personnes qui sont blessées. Nous arrivons aujourd'hui au chiffre honteux de plus de 30 000 personnes touchés par cette guerre. Je ne parle même pas de ceux qui ont été déplacés, des maisons qui ont été détruites, le patrimoine qui a été aujourd'hui effacé, je dirais, de la géographie yéménite. Ça, c'est quelque chose qui compte et qui compte dans l'histoire d'un peuple. Et aujourd'hui, dans l'histoire du Yémen, il faut se rappeler de tout ça et les yéménites s'en souviendront bien. Par contre, pour ce qui concerne le plan militaire, aujourd'hui, les yéménites sont passés de la phase défense à la phase attaque, et ce depuis quelques années, c'est-à-dire les choses sont montées crescendo. Aujourd'hui, ce sont les yéménites qui ont l'initiative de combat. Aujourd'hui, plus rien n'appartient aux Saoudiens. Ils essayent tout simplement de défendre des positions qu'ils ont acquises précairement. Et aujourd'hui, ils le payent cher parce que, évidemment, quand vous avez des personnes qui ont la volonté, qui ont la conviction, qui ont la croyance, qui ont la foi, et en face, vous avez des mercenaires ou des gens qui ne croient en rien et qui sont là juste pour obéir à un vœu d'un prince qui est devenu, excusez-moi d'être clair, qui est devenu tout simplement dégénéré, aussi bien dans son comportement personnel que dans ses décisions politiques, et bien évidemment, on arrive à la situation que l'on connaît, c'est-à-dire victoire après victoire, reprise des milliers de kilomètres, parfois en une journée, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Aucune guerre n'a pu démontrer un tel courage, mais surtout des exploits à ce niveau-là, avec peu de moyens. Et aujourd'hui, les Yéménites le réalisent avec peu de choses, mais avec surtout beaucoup de volonté, beaucoup de foi et beaucoup de conviction.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Habib Tava, analyste politique. Monsieur Tava, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et bonne et heureuse année à tout le monde et merci de me recevoir.
Monsieur Tava, Maître Chami, là.
Je voudrais féliciter Maître Chami qui a fait un très beau tableau d'ensemble de la situation. Et j'aimerais donner quelques précisions techniques sur ce qui se passe.
Allez-y, s'il vous plaît.
Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la bataille de Marib est en train de tourner à la déroute pour les Saoudiens. Évidemment, les bombardements intenses qu'ils ont faits ont retardé, mais n'ont pas arrêté, la progression des forces yéménites sur le terrain. Et surtout, les yéménites ont fait des diversions qui, à la fois, étaient des victoires et en même temps, façon de diminuer la pression sur les gens qui s'attaquent à Marib. Il y a la prise, d'une part, de grandes zones dans le Jaouf. Et surtout, ce qui est intéressant, parce que ça n'a pas été vraiment commenté, les combats qui se passent à Chabwa. Chabwa est une région qui, quand le Yémen était divisé en deux, relevait du sud de Yémen. Or, nous savons que les forces qui ont été attaquées à Chabwa, c'était des forces des Émirats Arabes Unis. Et nous savons qu'à l'intérieur de la coalition qui est menée par l'Arabie Saoudite, il y a des tensions entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. Or là, ce coup qui a été frappé contre les Émirats, c'est un coin qui est enfoncé entre deux alliés rivaux, et va accentuer probablement les tensions qui existent entre eux et faciliter peut-être la victoire des forces yéménites, parce que les gens des Émirats voudraient en fait avoir reconstitué l'ancien Yémen du Sud et avoir la main dessus. Et ce dont n'est pas d'accord du tout la puissance saoudienne. Donc il faut bien voir cette division dans le camp opposé qui le fragilise en dépit des moyens financiers énormes, des moyens militaires déployés, etc. Quant aux Saoudiens eux-mêmes, il est piquant de voir les Américains vouloir leur vendre des armes qui ne servent à rien. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques jours, il y a eu un marché, je crois, de 600 millions de dollars qui a été proposé aux Saoudiens. On va vous vendre des missiles RR. Alors c'est évident que l'armée yéménite n'ayant pas de force aérienne, les missiles RR ne servent qu'à une chose, à engranger de l'argent pour les constructeurs américains qui probablement n'arrivent pas à vendre ces missiles. Donc il y a une situation effectivement qui est complètement ridicule pour le pouvoir saoudien, forcé d'acheter des armes dont il n'a pas besoin et perdre sur le terrain l'avantage qu'il avait cru prendre au début. Et je rappelle aussi quelque chose dont on a moins parlé, c'est la défaite à Hodeïda, où ils ont été, il y a deux mois, repoussés vers le sud et où les Yéménites espèrent reprendre le contrôle du Bab el-Mandeb et donc interdire de nouveau le passage à la base israélienne que les Israéliens essayent d'installer dans l'île de Périm.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Tavar, restez avec nous, s'il vous plaît. Maître Chami, alors vous avez rappelé, tout comme Monsieur Tavar, depuis 2015, en effet, l'Arabie saoudite et ses alliés sont allés d'échec en échec, défaite en défaite. Et pour Ansar Allah, c'était victoire après victoire. Et dans ce contexte, alors, la défaite définitive de l'Arabie saoudite et de ses alliés s'avère inéluctable. Ceci étant dit, il paraît que alors les États-Unis et le régime israélien ne resteront pas bras croisés, d'où justement cette révélation par un membre du bureau politique du gouvernement de salut national au Yémen, l'implication des chasseurs américano-israéliens dans le bombardement du Yémen. Alors, pour 2022, avec justement ces évolutions et ces victoires des forces yéménites et les défaites consécutives de l'Arabie saoudite, à quel attendre, Maître Chami?
Écoutez, on peut imaginer évidemment des interventions ponctuelles américaines ou israéliennes ou que sais-je, peut-être britanniques, peut-être françaises, on n'en sait rien. Mais la question qui est posée, c'est pour aboutir à quoi? Il y a une configuration aujourd'hui sur le terrain qui a été parfaitement rappelée par M. Tabar. Il dit clairement, effectivement, que sur le plan militaire, j'ai envie de dire que la nouvelle carte militaire est déjà tracée et elle ne fait que s'étendre au profit d'un salon-là et de l'ensemble de la coalition pro-nationale et qui lutte contre l'occupation et contre l'invasion saoudienne et avec les mercenaires et des Saoudiens et des Émiratis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'il y ait ces bombardements, admettons qu'il y ait ces interventions. Est-ce qu'il va y avoir des interventions au sol? Non, personne ne prendrait ce risque-là. Les Américains se retirent d'Afghanistan, se retirent d'Irak, vont se retirer de Syrie. Par conséquent, une intervention au sol, il n'y en aura pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous avez toujours les mêmes mercenaires, vous avez toujours les mêmes personnes qui sont sans conviction, qui sont envoyées là juste pour réaliser je ne sais quel projet politique, parce que nous ne voyons même pas la finalité, si ce n'est pour vouloir mater les Yéménites au prétexte de vouloir régler la question avec l'Iran. Aujourd'hui, les Saoudiens sont obligés de discuter avec les Iraniens, sont obligés de s'incliner devant la force de la République islamique d'Iran et sont obligés de comprendre que la stratégie de la région est en train de changer, la géopolitique de la région est en train de changer. C'est la raison pour laquelle, de temps à autre, ils disent « Eh ben maintenant, on va peut-être négocier sur le Yémen ». C'est-à-dire, en d'autres termes, ils vont se retirer du Yémen. Et puis le lendemain, évidemment, le fameux prince dégénéré, il se rétracte et puis il recommence les mêmes attaques en disant militairement on peut gagner tel front pour avoir vos cesses. Mais il n'aura rien, il n'aura d'échec parce que c'est un totalement incompétent, il n'arrivera, il n'a aucune stratégie, il a tout simplement, si j'ose dire, des pulsions et qui deviennent à force des pulsions criminelles et qui sont faites au détriment du peuple yéménite, mais en même temps au détriment du peuple saoudien, parce que les Saoudiens n'ont pas vocation à mener des guerres contre leurs voisins, que ce soit des yéménites ou autres. Mais en réalité, il n'a cessé de participer à toutes les guerres destructrices dans la région. Regardez voir ce qu'il a fait en Syrie, en Irak, au Yémen et ailleurs. Par conséquent, tôt ou tard, cette stratégie va baisser parce que même ses maîtres, c'est-à-dire les Américains, vont finir par lui dire « Maintenant, il faut calmer le jeu en te vendant des armes, d'accord ? Vous êtes un très bon client, mais ces armes-là ne serviront pas à ces guerres-là parce que ces guerres-là pourraient perturber le jeu global des Américains dans la région parce qu'eux, ils ont vocation aujourd'hui à apaiser ces tensions, raison pour laquelle nous assistons à presque un aboutissement des négociations avec les Iraniens par rapport à ce qu'on appelle la question du nucléaire iranien. Mais c'est une fausse question parce que le nucléaire iranien est un nucléaire civil et depuis le début, on veut que la République islamique d'Iran s'engage à ne pas rentrer dans un nucléaire militaire, ce que l'Iran n'a jamais voulu faire. Mais maintenant, on veut négocier sur les missiles balistiques. Et aujourd'hui, les missiles balistiques, il est incontestable qu'ils ne rentreront pas dans les négociations. La stratégie de l'Iran dans la région ne rentrera pas dans la discussion. Toutes ces questions-là seront discutées plus tard, comme cela avait été prévu à l'époque du premier accord avec Kerry. Mais les Américains étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils se retirent quand ils veulent et comme ils veulent des accords qu'ils ont signés, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leurs paroles, ils ne respectent pas leurs signatures. Maintenant, ils sont obligés de revenir vers une nouvelle signature, mais bien entendu, ils n'auront pas plus de garanties parce que l'Iran, sa ligne est toujours claire. Et pareil, par rapport à ce qui se passe au Yémen, eh bien évidemment, le peuple yéménite connaît son destin, connaît sa force et connaît, son avenir. Et son avenir n'est pas dans une guerre avec l'Arabie saoudite parce que les Yéménites ne sont pas demandeurs d'une guerre avec l'Arabie saoudite. Et les Yéménites, ce sont des gens pacifistes. Mais bien entendu, ils sont obligés de se défendre. Et évidemment, ils le font avec brio, avec intelligence, avec quelque chose qui dépasse toutes les prévisions militaires. Tout le monde aurait imaginé que les Yéménites s'effondreraient très rapidement. Et regardez voir ce qu'ils ont fait. Ils ont même fait, quelque chose d'extraordinaire, de développer leur industrie militaire, de développer leurs missiles, de développer leur capacité de frappe. Et aujourd'hui, même le cœur de l'Arabie saoudite est menacé. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, que les Yéménites aient été aidés ou pas. J'ai envie de dire que c'est secondaire, mais c'est avant tout le peuple yéménite qui est là. Et maintenant, on essaie de dire c'est grâce aux Hezbollah ou c'est grâce aux Iraniens, j'ai envie de dire. Et alors, vous avez derrière vous les Américains, les Anglais et bien d'autres pays, et vous n'y arrivez pas. Avec peu d'aide, ces Yéménites ont réussi, ils sont toujours victorieux et ils sortiront définitivement victorieux de cette guerre.
Merci encore, Maître Chami. Une toute dernière question à M. Tava. Monsieur Tava, Maître Chami l'a rappelé, les Yéménites ont fait preuve d'un génie militaire exceptionnel, ont développé leur industrie militaire. Donc, ils ont réussi justement à changer le cours de la guerre. La question qui se pose justement, quelles seront les répercussions géostratégiques de ce changement des rapports de force en 2022 et quelle sera la réaction, non seulement de l'Arabie saoudite qui est condamnée à échouer, mais à ses alliés, notamment les Américains.
D'abord, je voudrais rappeler que la dernière manœuvre qui a été faite par les Saoudiens, parce qu'il n'y a pas que des manœuvres militaires, il y a des manœuvres politiques aussi. Quand l'ambassadeur d'Iran s'est trouvé très mal à cause du corona et qu'il a fallu le ramener en Iran où il est malheureusement mort, les Saoudiens ont voulu jouer toute une manœuvre très fine d'ailleurs, très fine, dans laquelle ils ont essayé de mettre à mal les relations entre l'Iran et les Yéménites. Et c'est tombé à l'eau parce que quand on a su le nœud de l'histoire, qui est assez compliqué, mais qui est finalement très simple, ils n'ont pas réussi, parce que les Saoudiens ont aussi le sens d'une stratégie fine de manœuvre humaine dans laquelle ils essayent de déstabiliser le camp adverse. Jusqu'ici, ils n'ont pas réussi, mais c'est une des dernières manœuvres qui a eu lieu. Un autre point qu'il faut voir, c'est que les Saoudiens sont... le pouvoir saoudien, les Saoudiens, c'est pas les Saoudiens, le pouvoir saoudien est acculé à ne pas reculer, parce que s'il recule, il risque de sauter, parce que le prince héritier s'est mis tellement d'ennemis à l'intérieur de l'Arabie saoudite que s'il capitule, il est perdu, et s'il ne capitule pas, il est perdu aussi. Il est donc face à une impasse catastrophique qu'il n'arrive pas véritablement à liquider, et qui ne dérange pas malheureusement les puissances occidentales, qui sont très contentes de lui vendre des armes, de lui fourguer des mercenaires, de le mettre à genoux, de lui pomper son argent, etc. Donc moi, je serai optimiste du point de vue tactique sur le terrain. Les Yéménites sont en train de gagner. Mais du point de vue de la résistance yéménite, elle est acculée à continuer à attaquer, parce que les Saoudiens, ou du moins si c'est ce pouvoir qui reste en tête, ne peut pas reculer. Et donc il y a malheureusement une impasse qui fait souffrir le peuple yéménite, et j'espère me tromper dans une prévision qui est finalement triste, parce que je crois que les Saoudiens vont continuer la guerre parce qu'ils sont le dos au mur. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les yéménites qui sont le dos au mur, c'est les Saoudiens qui sont le dos au mur, sans compter les tensions qu'ils ont avec les Émirats arabes unis. Donc je crois que cette année sera peut-être décisive, dans le sens où il s'agira de savoir s'ils vont arrêter la guerre, et avec s'ils arrêtent la guerre, tout un rééquilibrage régional en faveur du camp de la résistance. Il ne faut pas oublier le Hezbollah, qui est aussi très menacé au Liban par des manœuvres occidentales redoutables, des manœuvres israéliennes. Et il ne faut pas oublier que le Hezbollah a envoyé des officiers pour aider. Et un d'entre eux a été tué dans le siège de Mareb, un haut gradé. Donc tout ce monde-là est en train de faire front. Et aujourd'hui, cette coalition qui comporte le Hezbollah et les Libanais, les partisans de la résistance, la Syrie, de nombreux courants en Irak, l'Iran, etc., toutes ces forces en conjonction sont en train peut-être de reprendre le dessus. Et c'est dans ce contexte que l'on peut voir la bataille qui se passe au Yémen.
Habib Tava, analyste politique, maître André Chamy, juriste international et sociologue, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
La Fed va-t-elle faire s'effondrer les marchés financiers mondiaux? Quelle est l'ampleur de la bulle boursière américaine d'aujourd'hui? En octobre 2008, juste après la crise de Lehman, la capitalisation des actions américaines s'élevait à 13 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle dépasse les 50 000 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 400% et plus du double du PIB total des États-Unis. Apple Corporation représente à elle seule 3 000 milliards de dollars. Pourtant, avec les pénuries massives de main-d'œuvre, les verrouillages à travers les États-Unis et les énormes perturbations des chaînes d'approvisionnement commercial, en particulier en provenance de Chine, l'économie est en train de sombrer et le projet de loi bidon de Biden sur les infrastructures ne fera pas grand-chose pour reconstruire l'infrastructure économique vitale des autoroutes, des pluies, des usines de traitement des eaux et des réseaux électriques. Pour des millions d'Américains, Après l'effondrement de l'immobilier en 2008, l'achat d'actions a été leur meilleur espoir de revenus de retraite. La Fed prépare un crash boursier en 2022, mais cette fois-ci, il servira à déclencher une véritable grande dépression, pire que celle des années 1930, alors que des dizaines de millions d'Américains ordinaires verront leurs économies anéanties. Le jeu des rachats d'actions. Au cours des quatre derniers trimestres, les entreprises de S&P 500 ont racheté 742 milliards de dollars de leurs propres actions. Le quatrième trimestre de 2021 a vu une augmentation record de ce chiffre, les entreprises s'empressant de pomper leurs actions en prévision d'une taxe Biden sur les rachats d'actions par les entreprises. Depuis le début de 2012, les entreprises du S&P 500 ont racheté près de 5,78 trillions de dollars de leurs propres actions. Ce n'est pas de la petite monnaie. La dynamique est tellement folle qu'au milieu d'une décision de Microsoft le mois dernier de racheter toujours plus d'actions, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s'est débarrassé de plus de 50% de ses actions Microsoft en une journée. Mais l'action a à peine bougé parce que Microsoft elle-même était occupée à racheter des actions. Cela montre le niveau d'irréalité du marché américain actuel. Les initiés savent que le marché est sur le point de s'effondrer. Elon Musk de Tesla vient de vendre 10 milliards de dollars de ses actions, prétendument pour payer des impôts. Pour rendre le marché boursier encore plus vulnérable à un effondrement de panique, une fois qu'il est clair que la Fed va augmenter les taux d'intérêt, il y a près de 1 000 milliards de dollars de dette sur marge selon les données d'octobre. Une dette pour ceux qui achètent des actions en empruntant de l'argent à leurs coursiers. Dès qu'un effondrement majeur du marché commencera, probablement au début de 2022, les coursiers exigeront le remboursement de leur dette marginale, ce que l'on appelle les appels de marge. Cela accélérera à son tour la vente forcée pour lever les appels de fonds. La date à laquelle la Fed réduira ses achats de titres du Trésor américain et d'obligations hypothécaires liées à l'État fait l'objet de nombreuses discussions. Ces achats ont été énormes. Depuis le début de l'hystérie de la pandémie en février 2020, les avoirs totaux de la Réserve fédérale en titres de ce type ont plus que doublé, passant de 3 800 milliards de dollars à 8 000 milliards de dollars à la fin d'octobre 2021. Cela a maintenu les taux hypothécaires artificiellement bas et a alimenté la panique dans l'achat de maisons, les citoyens réalisant que les taux bas sont sur le point de prendre fin. Ce que la Fed appelle « tapering », en réduisant à zéro l'achat mensuel d'obligations en même temps qu'elle augmente les taux d'intérêt directeurs à un double coup dur. C'est énorme. Et le sang coulera de Wall Street à partir de 2022, lorsque le tapering de la Fed prendra de l'ampleur début 2022, combiné à la hausse des taux. Dès novembre, la Fed a commencé à réduire ses achats mensuels de soutien au marché. À la lumière des nouveaux progrès substantiels que l'économie a réalisés en direction des objectifs du comité en matière d'emploi maximum et de stabilité des prix, a déclaré le FOMC. Il a annoncé qu'il diminuait le montant des achats de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires en novembre et décembre. Depuis l'époque de la guerre du Vietnam, sous la présidence de Lyndon Johnson, le gouvernement américain a manipulé les données relatives à l'emploi ainsi que les chiffres de l'inflation pour donner une image bien meilleure que celle qui existe. L'économiste privé John Williams de Shadow Government Statistics estime que le taux de chômage réel aux États-Unis, loin des 4,2% annoncé pour novembre, est en réalité supérieur à 24,8%. Comme le note Williams, la poussée d'inflation reflète la création extrême de la masse monétaire, les dépenses extrêmes du déficit fédéral et l'expansion de la dette fédérale, les perturbations pandémiques et les pénuries d'approvisionnement. Elle ne reflète pas une économie en surchauffe.
les déficits budgétaires fédéraux atteignent le chiffre record de 3 000 milliards de dollars par an et aucune fin n'est en vue. Augmenter les taux à ce stade précaire ferait s'effondrer le fragile système financier américain et mondial, ouvrant la voie à une crise où les citoyens pourraient demander une aide d'urgence sous la forme de monnaie numérique et d'une grande réinitialisation. Il convient de noter que tous les cracks boursiers majeurs aux États-Unis depuis octobre 1929, y compris ceux de 2007-2008, ont été le résultat d'actions délibérées de la Fed déguisées sous le prétexte de contenir l'inflation. Cette fois, les dégâts pourraient être considérables. En septembre, l'Institut de la finance internationale, basé à Washington, a estimé que les niveaux d'endettement mondiaux, qui comprennent la dette des gouvernements, des ménages, des entreprises et des banques, ont augmenté de 4 800 milliards de dollars pour atteindre 296 000 milliards de dollars à la fin du mois de juin, soit 36 000 milliards de dollars de plus qu'avant la pandémie. Sur ce total, 92 000 milliards de dollars sont dus par des marchés émergents tels que la Turquie, la Chine, l'Inde et le Pakistan. La hausse des taux d'intérêt déclenchera des crises de défaut de paiement dans le monde entier, les emprunteurs étant incapables de rembourser. Cette situation a été délibérément créée par les banques centrales, la Fed en tête, depuis la crise de 2008, en poussant les taux d'intérêt à zéro, voire négatifs.